littérature paysanne à mes Mahmoud Alaya. Adiousias, Mahmoud.
Adiousias, bonsoir.
Bonsoir. Alors, continua de découvrir un peu un voyage que faisais ici au Salon de l'Agriculture, d'accord, hein?
Oui.
Un rencontrer le seigneur Jean Mouchel, qui était encargé, qui avait des responsabilités d'une organisation syndicale, ou ce qu'avait vu, mais dans cette chronique, nous avons estacé de parler de la vie des paysans dans la seconde mità, donc après la guerre, dans la seconde mità du siècle XX, avec les testimonies de Jean Mouchel. Mais d'un premier, peux-tu résumer un peu quel est Jean Mouchel?
Oui, oui, il faudrait rappeler que disons, Jean Mouchel, c'est un paysan normand. Il est né à Briquebosc, dans la Manche, en Normandie. Depuis des générations, ses ancêtres étaient paysans. Et lui aussi, il est devenu à partir de 14 ans. Très tôt, pour lui, c'est la rencontre avec la JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne, et les responsabilités prises dans cette organisation le font rencontrer de nombreux jeunes qui constituent une pépinière de responsables agricoles. Puis, à l'âge de 30 ans, il s'installe dans le Calvados, sur une petite exploitation, sur une exploitation de 60 hectares d'élevage. Il est convaincu de l'intérêt de l'agriculture de groupe et alors il s'associe avec son frère et constitue un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. C'est une formule assez souple, disons, pour travailler ensemble. Et alors, cette formule lui donne justement la possibilité de se libérer plus facilement des tâches quotidiennes. Et puis, il devient président du Centre des jeunes agriculteurs de Calvados, puis administrateur et vice-président du Centre national. Il emprunte aussi le même parcours à la FNSOA, hein, donc au syndicat agricole, dans les chambres d'agriculture. Et en 1976, il est élu président du Comité économique et social de Basse-Normandie. Puis plus tard, il devient premier vice-président du conseil régional de Normandie, de Basse-Normandie. À Paris, il va siéger aussi au conseil économique et social et dans diverses institutions au titre de ses responsabilités professionnelles. Il est devenu conseiller agricole de Jacques Chirac et puis il a été élu aussi au Parlement européen. Alors, je dois dire aussi que Jean Mouchel est membre de l'association des écrivains et artistes paysans, dont je rappelle l'adresse du site internet sur lequel les auditeurs et auditrices peuvent avoir plus d'informations. C'est www.écrivain-paysan.com. Je répète, www.écrivain-paysan.com. Alors, bon, une fois à la retraite, Jean Mouchel a voulu témoigner sur la vie des paysans qu'il a connus en écrivant plusieurs romans. Jean Mouchel est un humaniste. Son humanisme apparaît aussi bien dans sa carrière que dans ses écrits. Alors moi, je l'ai rencontré récemment, comme tu l'as rappelé, au Salon de l'Agriculture. On a parlé, il nous a donné son point de vue sur la politique agricole, parce qu'il a quand même a eu des responsabilités et tout cela. Cela a fait l'objet d'une émission précédente il y a quelques semaines. Et puis aujourd'hui, on va surtout lui demander de nous parler de ses écrits. Alors, on va l'écouter à propos de ses écrits.
Comment t'es venu à l'écriture? Comment t'es venu cette idée? Et qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ton premier ouvrage?
Quand on a travaillé toute sa vie depuis l'âge de 14 ans et qu'on arrive en retraite trop tôt à 67 ans et qu'on est habitué à travailler toute sa vie, on ne sait rien faire d'autre. Alors il fallait faire quelque chose. J'aurais pu me consacrer dans des œuvres caritatives ou autre chose, mais j'avais envie de transmettre quelque chose à mes enfants d'abord Et comme mes enfants ne sont malheureusement plus en agriculture, moi j'ai encore des neveux, des nièces qui sont en agriculture, je voulais leur transmettre quelque chose et leur dire qui nous étions, ce que nous voulions, quels étaient nos objectifs, comment nous avons vécu. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. C'était une sorte de cri du cœur, le chant de la bien-aimée. Et j'ai voulu raconter la vie d'une famille de paysans, sans remonter très loin jusqu'à mon enfance, mais après la guerre, à partir de 1946, j'ai présenté ce qu'était la vie d'une famille de paysans ordinaires en région d'élevage, les conditions de vie, de travail, de logement, les mœurs, mais aussi comment on se contentait d'un niveau de vie qui était très bas, où il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas des tas de choses.
La région, c'est la Normandie.
C'est la Normandie. La Normandie, région d'élevage.
D'accord.
Alors, j'ai décrit un peu quelle était cette situation, et j'ai montré trois générations. Le grand-père, qui était en fin de parcours, ancien ouvrier agricole, qui avait beaucoup travaillé pour acheter un petit coin de terre, ce qui lui avait permis d'épouser une fille qui elle-même était propriétaire, et comment ces gens-là avaient vécu. Et j'arrive à la génération suivante, et je montrais comment les problèmes que posait la cohabitation, quand tout le monde vivait sous le même toit, et comment la plus jeune génération n'acceptait plus ces conditions de vie. Il fallait aménager la boulangerie pour créer un logement, pour que la jeune épouse qui arrivait dans cette famille de paysans ait quand même quelque chose qui soit son coin à elle, qui soit son chez elle. J'ai voulu montrer aussi comment, à cette époque, qui était une époque de grande tradition de production agricole, on entrait dans une ère nouvelle. Quand un paysan avait vu les Américains qui ouvraient avec une grosse machine une brèche en un quart d'heure, alors que lui passait deux jours à la main pour le faire, ça lui a mis des idées dans la tête. Il s'est dit, mais il faut qu'on travaille autrement. Ça a été le début de la mécanisation, le début de la modernisation. Et c'est là qu'apparaît le conflit entre les générations. Parce que le père qui avait appris à travailler avec son père, voyait son fils qui se révoltait un peu contre ses méthodes de travail, qui réfléchissait un peu et qui disait, mais comment se fait-il que nous ayons autant de temps passé au travail alors que la production est si faible? Alors il fallait réfléchir, on a des terres dispersées dans tous les coins, il faut arriver à regrouper tout ça, enfin, je passe rapidement là-dessus, et j'ai montré comment cette modernisation de l'agriculture a créé des conflits entre les générations, en l'occurrence entre le père et le fils, et comment la mère était soucieuse de la paix dans le ménage, qui comprenait aussi qu'il y avait un changement qui était en train de se produire, il fallait peut-être que les enfants aient une formation meilleure, qu'eux-mêmes n'avaient reçu parce qu'il fallait se préparer à cette évolution. Alors voilà, j'ai écrit ça, c'était un petit peu comme un testament, c'était un peu un cri du cœur aussi, et puis j'ai montré au travers de ce roman les objectifs que j'avais poursuivis avec mes amis et collègues en matière de politique agricole.
Merci. Donc ça, c'était le premier roman, le titre, chant. Le chant de la bien-aimée. Hein. Donc c'est un roman, mais inspiré de faits réels et qui montre bien, disons, des problèmes vécus dans la région, dans la Normandie, entre les différentes générations, les personnages du roman, etc.
Sur ce sujet, oui. J'ai vu des paysans de différentes régions de France qui ont lu ce livre et qui m'ont dit « c'était comme ça chez nous, mais ça, tu peux pas l'avoir inventé, parce que c'est trop vrai
». Voilà. Donc ça, moi aussi, je l'ai lu et je trouve que ça correspond très bien à des situations réelles. Si vous voulez, mais le livre se lit très bien comme un roman. Ce n'est pas un livre technique du tout, c'est un roman qui illustre bien des faits réels, des campagnes de l'après-guerre, si on veut. Bon, mais après, tu as écrit d'autres romans et tu as évolué. Donc, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits depuis et qui n'ont pas la même problématique ou la même façon de. Alors, peux-tu nous dire quelques mots des autres ouvrages?
Oui. Le deuxième, La robe bleue d'Hélène. Pourquoi j'ai écrit ce roman? D'abord, le succès du premier m'a encouragé. Et puis, j'ai trouvé que si on avait décoré, à juste titre, des anciens combattants, on avait bien oublié les femmes qui étaient restées à travailler en agriculture ou ailleurs. En l'occurrence, pour mon livre, c'est en agriculture, qui ont peiné, qui ont miséré pendant la guerre, sous l'occupation, avec les problèmes que ça posait. Et l'occupation allemande, les réquisitions, tous les problèmes que l'on pouvait trouver à ce moment-là, le manque de moyens de production. Et j'ai voulu rendre hommage à ces femmes. J'ai d'ailleurs dédié mon livre à nos mères et grand-mères qui ont connu elles aussi la solitude imposée par les guerres. Et alors voilà. Et je montre non seulement la difficulté, mais tout ce qui peut résulter de ces situations. Je ne vais pas révéler ici le contenu du livre, mais il y a parfois des dérives qui sont presque inévitables. Il y a eu beaucoup de conséquences. Il y a eu des enfants qui sont nés, des enfants illégitimes qui sont nés à cette époque par les Allemands. On évalue à peu près à 200 000. Bon. Alors, j'ai voulu traduire tout ça et surtout rendre hommage à ces femmes et en même temps montrer qu'il y avait dans la population des gens qui se battaient pour reconquérir leur liberté, avec l'oncle Fulgence que je cite beaucoup dans ce livre, cet homme sage qui, avec ses moyens à lui, fait de la résistance et contribue au développement de la production et au bien-être de sa famille, quoi. Voilà.
Bon, ça, c'est la robe bleue d'Hélène. C'était en quelle année que tu as écrit ça?
Alors, la robe bleue d'Hélène, j'ai commencé à l'écrire en 98 ou 99, vous voyez, à peu près. Et je l'ai appelée la robe bleue d'Hélène parce que le mari, avant de partir à la guerre, avait dit à sa jeune femme, écoute, j'espère que j'en viendrai, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Je veux que tu aies un souvenir de moi avant de partir. Je t'achèterai une belle robe, la robe bleue d'Hélène, qu'elle range. Elle lui a dit, je la rangerai soigneusement et je la ressortirai quand tu reviendras. Alors, de temps en temps, elle l'essaye pour voir si elle lui va toujours. Et puis, elle la remet dans la garde-robe en attendant le retour de son mari.
Très bien. Bon, ça, c'est le deuxième ouvrage qui rend hommage un peu aux femmes pendant la guerre et un peu l'après-guerre. Alors, depuis, il y a eu d'autres romans.
Oui. Le troisième, c'est un peu curieux parce que je n'avais pas prévu de l'écrire. Mais c'est les lecteurs de La Robe Bleue qui me disaient, ça ne peut pas finir comme ça, ça finit trop vite, il faut quelque chose d'autre, il faut une suite. Alors, j'ai écrit une suite. Le suite, c'est l'histoire du fils d'Hélène. Et je raconte... D'abord le retour des prisonniers, la reprise en commun dans le ménage, qui est pas toujours simple parce que la femme a commencé à prendre, elle a pris des responsabilités, elle était devenue une chef d'exploitation. Et puis le mari revient, qui doit retrouver sa place. Et je décris tout ça, et ça n'est pas toujours tout simple non plus. Il y a eu des conflits. Et le vieil oncle Fulgence, le sage, s'emploie à raccommoder tout ça. Et puis, il y a ce fils qui, quand il commence à fréquenter l'école, se fait traiter de sale petit boche. Et il ne sait pas ce que ça veut dire, mais sa mère lui révèle finalement la vérité. Ce gosse est malheureux, maltraité à l'école, comme tous les enfants d'Allemands, surtout quand il s'agit d'une armée d'occupation. Et c'est un peu le souffre-douleur. Et il se renferme un peu sur lui. Et quand il a la chance d'aller ensuite au collège, au lycée, et il s'est fixé un objectif, apprendre l'allemand, parce que il voudrait retrouver ses ancêtres paternels, et apprendre l'histoire. Il veut comprendre quelque chose qui pour lui est incompréhensible, pourquoi mes ancêtres paternels et maternels, depuis des générations, se battent entre eux. Alors voilà, il veut aller rechercher son père, qu'il a vraisemblablement peu de chance de retrouver, parce que sa mère lui a dit, avant de partir sur le front russe, il m'a bien dit, si je reviens de cet enfer, vous serez la première prévenue. Or, je n'ai jamais eu de nouvelles.
Bien, bien, bien. Donc là aussi, c'est un autre roman un peu imprévu, mais qui illustre bien un fait réel, un fait qui a existé et qui est douloureux, mais qui a son importance dans la vie de pas mal de personnes dans les campagnes françaises. Alors, depuis, tu as écrit un autre.
Oui, alors sur celui-ci, j'ai eu la grande satisfaction d'être appelé par un fils d'Allemand, président d'une association d'enfants d'Allemands, qui m'a dit, vous avez décrit exactement ce qu'on a vécu, je voudrais que vous veniez plancher à notre Assemblée Générale.
Bravo. Bon, et depuis, il y a eu d'autres romans.
Oui, alors j'en ai eu un autre, à qui j'avais donné un titre en empruntant un proverbe africain. Là où on sème, il ne fait jamais nuit. Mon éditeur m'a dit non, c'est trop long, c'est pas vendeur. Je regrette beaucoup de ne pas avoir maintenu ce titre qui s'appelle maintenant « Soir maudit à la ferme d'Harry ». Les gens prennent ça pour un polar. Ce n'est pas un polar. C'est l'histoire d'un paysan. Et d'abord, j'ai dit pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'ai souffert beaucoup d'entendre des gens qui parlent sans savoir, qui sont d'autant plus affirmatifs qu'ils ne savent rien, qui accusent les gens sans savoir, pour se faire plaisir, pour histoire de bavarder comme ça. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et je raconte l'histoire de ce paysan accusé de viol et d'assassinat qui est emprisonné 30 mois avant le jugement. Et quand arrive la cour d'assises, il est acquitté. Mais acquitté au bénéfice du doute, parce qu'on n'a trouvé aucune preuve dans aucun sens. Tout heureux de rentrer chez lui, il revient à pied, fait 20 km à pied, parce qu'il a peur de tout, il a peur des gens, il a peur des voitures, il a peur du regard des autres. Il fait 20 km à pied pour rentrer chez lui, il arrive épuisé, mal aux pieds. Quand il ouvre la porte de la maison, toute la famille est à table, et il ne rencontre que des regards fuyants, voire hostiles. En quelques secondes, il est complètement découragé. Il referme la porte de la maison tout doucement et il s'en va. Et le long du petit chemin qui conduit à la route, il entend son cheval qui hennit. Il parle à son cheval et lui dit « Toi, tu m'as reconnu, toi tu m'as accueilli, ma famille m'a rejeté. » Mais il avait mal interprété, il a été trop vite le bonhomme, parce que la famille, quand elle attend quelques minutes, c'est pas possible qu'il disparaisse comme ça, il va revenir. Mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le fils sort, il appelle, il cherche son père, mais il est parti. Il est parti, il est disparu. Et on le cherche, on le cherche, on le cherche. Mais je ne vais pas révéler la suite de l'histoire.
Oui, oui, non, non, c'est passionnant parce que vraiment, c'est une histoire qui a existé, qui a dû exister et que d'autres personnes rencontrent. Et donc, ça vaut la peine d'illustrer un peu les conséquences comportementales au sein de la famille, du village, etc., de jugements, justement, comme cela. Merci beaucoup.
Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de passage, savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, puis savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Ecco, era la chronique de littérature paysanne avec une illustration musicale de Maxime Le Forestier. On est né quelque part.